Ce que je vous propose de réfléchir ce matin ensemble, de se poser la question, corps, esprit, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Dans notre façon de vivre notre foi, dans notre façon de vivre au quotidien, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Je ne sais pas si... est-ce que je peux avoir le support visuel, s'il vous plaît? Je ne sais pas si vous avez déjà écouté des personnes qui vous disent « Je suis catholique, croyant, non pratiquant. » Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'écouter ça. Autrement dit, il y a des choses avec lesquelles j'adhère, des valeurs, des idées, mais pas tout. Je suis non pratiquant. On pourrait dire encore autrement, ce en quoi je peux croire n'impacte pas beaucoup ma vie, ou peu ma vie. Et même dans les catégories de sondages qui sont proposées, on a même une catégorie proposée, catholique non pratiquant. Mais ne vous inquiétez pas, on a aussi une catégorie cachée pour les protestants. Dans les mêmes personnes qui font les sondages, ils ont vu que seulement 30% des personnes qui se déclarent protestantes vont à l'église régulièrement. Donc ça veut dire qu'il y a 70% de non-pratiquants. Qu'en pensez? Corps, esprit, qu'est-ce qui appartient à Dieu? Est-ce qu'on peut être chrétien non-pratiquant? Qu'attend Dieu de nous? C'est ce que je vous propose de réfléchir ce matin ensemble. Et pour cela, je vous invite à écouter un texte de la parole de Dieu. C'est Paul qui l'écrit aux chrétiens de Rome. Il leur dit ceci. Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce sera quoi? Un culte raisonnable. Mais ne vous conformez pas au monde actuel. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Voilà le texte qui va nous animer ce matin. Paul. Romains, chapitre 12, des versets 1 à 2, seulement deux versets. Quoi offrir? Comment l'offrir? Pourquoi un tel sacrifice? Et en pratique, comment se donner entièrement? Paul est assez clair. Il a déjà répondu à ma question. Quoi offrir? Votre corps, tout entier. Et dans la culture de l'époque, les sacrifices, c'était quelque chose d'assez commun. On offrait toujours des cadeaux, des animaux, des produits de l'agriculture à des dieux. Et certains même offraient des enfants. Dans une idée de système de compensation, je donne quelque chose à Dieu, Dieu va me rendre quelque chose. Mais vous inquiétez pas, dans le judaïsme, et encore maintenant, Dieu ne nous demande pas d'offrir nos enfants. Il le réprouve même. Donc ne vous inquiétez pas. Ils ne sont pas en train de faire ça au CBJ. Soyez sans crainte. Mais quand Paul parle des sacrifices, il sait de quoi il parle. Quand les gens écoutent parler de sacrifices, ils savent ce qu'ils entendent. Ça connecte dans leur tête. Paul ne leur demande pas d'offrir seulement leur esprit. Mais ils le demandent d'offrir leurs pensées, leur intelligence, leurs paroles, leur corps, leur action. Le commentateur Samuel Benetro, il écrit que la référence au corps montre que l'offrande demandée concerne le fidèle en tant qu'être chrétien, d'action et de relation, avec une bouche pour parler, des mains pour agir, des pieds pour se déplacer. Et je me sens serré. Voilà. Autrement dit, il demande de nous offrir tout entier. Christ l'a fait. Un disciple Et celui qui suit un maître, c'est celui qui adopte les mêmes pensées que son maître, qui adopte les mêmes comportements que son maître, qui agit de la même façon que son maître. Et pour ceux qui ont vu le célèbre film Austin Powers, ce sont des mini-moi. Pour d'autres qui aiment plutôt l'histoire, l'historien Genton, il parle de la réforme. Il dira que, par exemple, Luther a donné la réforme et la réforme, Calvin a donné une théologie. Le disciple a été plus loin, a approfondi les pas de son maître. Être disciple agit de la même façon que son maître, tout entièrement. Il se donne entièrement. Paul nous rappelle que se donner, c'est du concret. Ce n'est pas juste une fumée qui sort de notre tête, si on peut le représenter comme ça, bien entendu. Et je l'affirme, qu'on n'est pas disciple en Christ, selon la Bible, si on ne souhaite pas se donner entièrement à Dieu et lui vouer notre vie. Alors, comment s'offrir ? Et ce qui est assez étrange, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture, dans l'écoute, il le dit de se donner comme un sacrifice vivant. Deux mots qui ne nous semblent pas aller ensemble. Un sacrifice, il est peut-être vivant quelques instants, mais après il finit par mourir. Là, il met en parallèle, il met ensemble sacrifice et vivant. Il évoque un sacrifice qui continue de vivre. Et en réalité, il ne s'agit pas d'une vie répandue où le sang coule pour le pardon, car la réconciliation avec Dieu a déjà été acquise. Mais il s'agit seulement d'une vie consacrée, une consécration qui est quotidienne, sainte et agréable à Dieu. Lénard écrit que le chrétien est appelé à vivre et à vivre pleinement, mais en ayant concédé la direction de son existence. Paul ne nous invite pas à nous mortifier volontairement. Il ne nous invite pas à souffrir. Il ne nous invite pas à être des martyrs. Mais il nous invite à avoir une autorité joyeuse sous le règne de Christ. La désobéissance de l'homme enlève la vie. L'obéissance à Dieu redonne la vie. La désobéissance de l'homme enlève la vie. L'obéissance à Dieu redonne la vie. En Dieu, nous vivons et nous avons une invitation à nous laisser conduire par lui, car c'est la vie. Alors, pourquoi un tel sacrifice ? Faire un petit sacrifice ponctuel, je sais pas, c'est pas évident. Par exemple, essayer de donner des paroles constructives et encourageantes une demi-journée dans la semaine. Oh, une journée de boulot, pas une journée quand vous êtes à la maison, tout seul, même sans famille. Tout. Une demi-journée, c'est un sacrifice. Vous êtes toujours constructif, avenant, aimant. Faire un sacrifice régulier, c'est pas toujours évident non plus. Par exemple, remonter les courses de votre voisin tous les samedis matins et discuter avec lui. C'est un sacrifice de votre temps. Ça vous implique d'être présent, de prendre du temps pour lui. C'est déjà pas évident. Faire un sacrifice pendant 5 ans, c'est pas évident non plus. Par exemple, accueillir ses parents pour leurs vieux jours chez vous. Vous les aimez beaucoup, mais le sacrifice, c'est pas évident quand même. Vous réfléchissez à deux fois, même à plus de deux fois d'ailleurs. Mais faire le sacrifice d'une vie, c'est audacieux de dire ça de la part de Paul. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt, un vrai intérêt, un intérêt qui en vaut le jeu. Venez le 21 septembre. Il faut un intérêt. Et l'intérêt, il est simple. Je vous encourage donc, frères et sœurs, offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pourquoi ? À cause des compassions de Dieu. Par les compassions de Dieu. Par cette immense bonté C'est le plus raisonnable que Paul propose. Et quand Paul le raconte ça, il est tout à fait conscient du sacrifice que ça coûte, le prix du sacrifice. Si vous lisez un peu les évangiles et les écrits de Paul, aux Philippiens, il décrit ce qu'il renonce, ce en quoi il renonce. Et il conclut en disant « Mais ces choses qui étaient pour moi un gain, je les ai regardées comme une perte. À cause du Christ. À cause des compassions de Dieu pour nous. » Voilà la cause du sacrifice que nous sommes appelés à vivre. On a lu Romains 12. Il y a 11 premiers chapitres avant. Et dans ces 11 premiers chapitres, Paul raconte cette immense bonté de Dieu. Et il prend le temps de l'écrire. Il prend le temps de l'exposer. Il prend le temps de l'exposer en posant des questions par la rhétorique. Et le but de Paul est d'amener chaque personne de toutes les nations, pas que pour encourager les chrétiens, de toutes les nations à mettre leur foi en Christ. Et il leur dit, il prend le temps, c'est une chose en laquelle il vaut la peine de croire. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Par l'évangile, la justice de Dieu se révèle par la foi et pour la foi. Il rappelle que c'est le même évangile pour tous et c'est aussi le même moyen de se l'approprier pour tous. Il rappelle qu'il n'y a pas de préférence entre les juifs et les non-juifs, pas de privilège, juste une condition, le chemin de la foi. Le moteur pour notre sacrifice, ce n'est rien d'autre que la réconciliation pour tous par le sacrifice de la vie de Christ. Paul dirige nos regards sur le fondement même de l'être chrétien, de l'agir chrétien. Il nous rappelle la conscience, il nous invite à nous souvenir que nous ne sommes pas aimables et que Dieu nous aime. La conscience d'avoir été indûment aimé. Paul veut nous rappeler l'immense compassion de Dieu en nous mettant des sentiments parce que nous sommes pécheurs, défigurés par le péché, rebelles à Dieu, ennemis de Dieu. Et la compassion de Dieu se montre par le Christ. Cette compassion de Dieu prend le visage de Christ qui est mort pour nous à la croix. Un sacrifice a eu lieu pour nous donner la vie, pour que nous puissions vivre. Et comment répondre à cet immense amour? Paul, de manière très simple, de manière très catégorique, par notre vie entière, et c'est ce qui est raisonnable. C'est ça qui est assez troublant. Il affirme que ce sacrifice est raisonnable. Et quand on dit que donner sa vie en sacrifice est ce qui est le plus raisonnable, c'est-à-dire que ne pas la donner n'est pas raisonnable. C'est de la folie. La personne qui ne veut pas donner sa vie à Christ, c'est elle qui est folle. On va dire ça comme ça. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est raisonnable, les amis, de donner sa vie à Christ. Ça serait de la pure folie. Pas de sens de ne pas la donner. En pratique, verset 2. Je suis sûr que les anticonformistes ont aimé le début du verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Et je pense qu'ils sont arrêtés là. Ils ont les grosses bananes, ils ont souri. Mais Paul n'est pas, en tout cas, connu pour un anticonformiste par principe, n'en déplaise à certains. Mais le but de Paul est que l'on soit transformé par et pour Dieu. Et pas seulement le fait de ne pas se conformer. Ce n'est pas le but de Paul qu'on ne se conforme pas. Le but de Paul, c'est que nous soyons transformés par Dieu. Pourquoi ne pas qu'on se conforme ? Pardon, pourquoi ne pas se conformer ? Je finis le verset parce que sinon ça peut être bizarre. Pourquoi ne pas se conformer au monde actuel, au temps présent, suivant la traduction que vous avez ? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, on ne sait pas pourquoi, l'air permet encore que le diable a un certain pouvoir sur ce monde aujourd'hui. Et Paul le rappelle aux Philippiens au chapitre 2, que le diable règne encore à une certaine part d'influence sur ce monde. Et il influence les gens aussi qui ne veulent pas suivre Dieu. Paul sait que si on se laisse aller dans la mouvance du monde, nous allons dans la mouvance inspirée par le diable qui ne veut pas que nous approchions de Dieu. C'est pourquoi il nous dit, décalez-vous du monde, qui est sous l'inspiration du diable, mais venez sous l'inspiration de Dieu, soyez transformés par lui et être renouvelés. Ça peut être un peu bizarre. Et ce qui est important dans ça, c'est que l'Église est le lieu aussi où Dieu règne parce qu'il règne par ses enfants. Dieu a choisi l'Église comme cadre pour se faire connaître au monde. Éloignez-vous, ne vous conformez pas au monde, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Comment être transformé par ce renouvellement de l'intelligence? C'est très simple, en se mettant en contact de Dieu. Comment Dieu nous parle? À travers sa parole principalement. Et en se mettant en contact de lui par sa parole, nous allons être transformés. Et ainsi, nous allons discerner ce qui est bon, agréable et parfait. C'est chouette, non? C'est Dieu qui va nous donner les moyens de pouvoir discerner ce qui est bon, agréable et parfait. L'effet produit en se mettant au contact de Dieu sera notre sacrifice vivant. Alléluia! Rien de plus normal. Différents moyens pour se mettre au contact de la parole de Dieu, en l'étudiant seul, en l'étudiant en groupe, en venant dans un groupe de maison, en lisant sa parole ensemble et en l'étudiant, en prenant des cours dans une faculté de théologie, en priant, en méditant la parole. Bref, toutes les occasions sont bonnes pour se mettre au contact de la parole de Dieu, les amis. Et en étant en permanence à son contact, on pourra discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Parce que Dieu nous transformera, renouvellera notre intelligence, reconfigurera notre cerveau, nos pensées, pour être conformes à son image. Notre raison est aussi affectée par le péché. Et Dieu, pour que nous puissions bien raisonner, il faut que Dieu nous reconfigure, nous transforme, nous renouvelle. Et plus nous allons découvrir qui est Dieu, plus nous aurons de facilité à nous sacrifier pour lui. La non-conformité et le renouvellement de l'intelligence se nourrissent l'un l'autre. Jean-Claude Dotel, vous ne connaissez sûrement pas, il écrit un livre sur la spiritualité ignatienne et il parle de cette synergie entre les deux. Il écrit « Je ne pourrai jamais dire « Dispose de moi selon ton entière volonté » si, jour après jour et dans la patience, je ne dispose pas humblement mon cœur à laisser Dieu agir. » Je ne sais pas si vous dites peut-être, mais pourquoi Dieu ne nous a pas directement enlevés? On se tourne vers lui et directement il nous met dans une salle à part. Bon, comme ça on est tranquille pour discerner. Il est là, il est auprès de nous. Mais ce n'est pas sa volonté. Dieu ne nous a pas oubliés dans ce monde. Dieu nous a laissés exprès dans ce monde. Et quand Jésus prie en Jean chapitre 17, dans une belle prière et une prière de la fin de sa vie, il dit, je ne demande pas, il parle au Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du diable. Et il continue en disant, comme moi j'ai été envoyé dans le monde, moi aussi je les y envoie. Le but, l'avantage d'être renouvelé dans notre intelligence, c'est d'être mieux envoyé dans ce monde et discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous avons une parole dans ce monde. La sphère privée, la sphère publique, on dit il faut vivre sa voix dans son cachet. Notre foi a un impact sur la société. Et Dieu nous invite à avoir cet impact dans la société. Avoir une parole juste selon sa volonté. Nous ne sommes pas seulement des poteaux inertes, sans bouche. Nous sommes appelés à vivre pleinement dans ce monde. Et en réalité, on peut parler, ce sont les autres qui nous posent ces questions, mais on se pose les mêmes questions qu'eux. Les questions que le monde se pose, vivant dans ce monde, nous nous posons aussi les mêmes questions qu'eux. Et Dieu nous appelle à discerner ce qui est bon. Nous devons nous laisser transformer par lui, afin de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Et le discernement peut prendre du temps. Prier, ce n'est pas un moyen de mettre la pression sur Dieu pour qu'il nous réponde. Jeûner n'est pas un moyen de mettre la pression sur Dieu pour qu'il nous réponde ou pour qu'il résout un problème ou une difficulté. C'est de se mettre dans des positions permettant de recevoir Dieu. Ça nous permet de disposer nos cœurs à écouter Dieu, à lui parler, à prendre le temps, de mettre un cadre, de lui octroyer du temps pour qu'il puisse nous parler. Cette année, dans les prédications, nous voulons insister, voulons réfléchir ensemble comment vivre sa foi aujourd'hui, comment être chrétien aujourd'hui. On aura des séries de prédications à ce propos. On vous propose le Forum Veritas. On aura d'autres événements qui nous invitent à ça durant l'année. Offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Ça sera de votre part un culte raisonnable. Quoi offrir à Dieu ? Tout. Tout lui appartient. Tout doit lui être sacrifié, consacré et renouvelé par lui. Notre volonté, notre temps, notre raison, notre façon de vivre, notre argent, tout doit être reconfiguré selon les intentions de Dieu. Et la question qui était posée avant le culte, qu'est-ce que la liberté dans ça ? Et ma réponse que je proposais, c'est de faire, la liberté c'est faire ce pour quoi nous sommes créés. Nous sommes libres quand nous sommes utilisés pour ce dont on a été créé. Une fourchette, c'est faite pour manger. Bien sûr, on peut faire autre chose avec. Mais son but premier, c'est d'être piqué pour manger le morceau de, suivant votre alimentation, de carottes ou de viande. Nous sommes créés pour adorer Dieu. C'est ça la liberté. Ne pas faire autre chose, c'est ne pas être libre. Je voudrais vous lancer un défi. Un défi pour vous aider à nous lancer un défi pour être toujours plus sacrifié à Dieu. Très simple. Après chaque tâche que vous pouvez accomplir dans la journée, priez. Avant chaque tâche que vous allez accomplir, priez. Si la tâche est longue, à chaque pause, si la pause, c'est le seul moment pour pouvoir le faire, faites-le. Dans un esprit de pouvoir vous sacrifier à Dieu dans tout ce que vous faites. Et j'aimerais reprendre, paraphraser l'expression « il ment comme il respire », mais pour dire « il prie comme il respire ». Chaque moment doit être consacré à Dieu. Et en priant, nous voulons nous focaliser sur Dieu. Quand nous faisons ça, c'est un défi que je vous lance. C'est quelque chose que j'essaie de mettre en place. Me dire ce que je fais quotidiennement, c'est pour Dieu. Mon travail, si je l'accomplis, c'est pour Dieu. Je vous encourage donc, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, et agréable à Dieu. Ce sera de votre part, de notre part, un culte raisonnable. Amen.